Donc je vais ouvrir donc ce séminaire. Donc ce séminaire, c'est donc un séminaire de philosophie qui se déroule à la Maison populaire de Montreuil aujourd'hui et qui c'est la première journée était hier. Donc le thème c'est la philosophie esthétique du double et du dédoublement. Donc ce séminaire se place dans la continuité de tout un programme qui a commencé au Collège international de philosophie, donc au CIPH. Donc en fin novembre 2008, donc on a fait un colloque au CIPH sur le thème du double et du dédoublement, avec donc Mireille Calgruber qui a parlé de Marguerite Duras, et aussi dans le cadre des écrans philosophiques, qui sont des séances de cinéma philosophique. On projette un film, ensuite il y a une intervention d'un philosophe, donc qui se passe donc au cinéma du Méliès à Montreuil. Donc on a aussi consacré des séances au thème du double. Et donc là, ces séminaires concluent on va dire, la série d'interventions sur le double. Enfin, il y aura encore une séance le 25 mars de Julien Palota sur un film de Cronenberg au sujet du double. Et donc il y a eu comme ça des séries de conférences au Collège international de philosophie et au cinéma Le Méliès. Donc le thème du colloque, c'est donc penser le double et la notion de double et de dédoublement. Et donc d'une certaine manière, donc les différentes questions qui sont en projet à travers cette interrogation, c'est donc la série de questions qui concernent au fond la notion d'identité, c'est-à-dire que la notion double nous interroge sur la notion d'identité, sur la notion d'identité personnelle. Comment penser la relation à soi? Et comment est-ce que le double interroge cette relation à soi? Donc le problème là, à travers la notion double, c'est donc de penser la notion de subjectivité, le rapport entre identité et subjectivité. Et quand je parle de rapport, en problème de rapport entre identité et subjectivité, hein, je fais référence à ce que disait Deleuze quand il disait essayer de penser une subjectivité sans sujet. Donc en quoi est-ce que la notion de double se rapproche ou s'éloigne de cette thématique du rapport entre identité et subjectivité? Et comment est-ce que le double peut être à la fois une menace pour le sujet, en tant que ça peut, on va dire, mettre en danger son identité personnelle, donc d'où le rapport entre le double et la folie, hein, notamment dans l'Orla par exemple, hein. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que le thème du double peut être un échappatoire créatrice? Et là, de ce point de vue, le double, c'est finalement une figure de l'artiste, une figure de l'incarnation donc de l'artiste dans une œuvre. Et donc, à travers la notion de donc le double, donc c'est cette idée-là, et il y a aussi la notion de dédoublement. Les deux, en fond, sont assez distincts. On essaye de faire une distinction entre ces deux notions. Et à travers la notion de dédoublement, ce qui est en jeu aussi, et si évidemment déjà aussi à travers la notion double, ce qui est en jeu, c'est aussi tout un ensemble de rapports conceptuels entre des notions qui vont, par exemple, le rapport entre l'image et le réel. Hein, ça, on l'a vu, je reviendrai hier soir, on l'a vu quand on a interrogé les notions déjà hier soir, quand on a parlé de philosophie du double. Donc le rapport entre l'image et le réel, le rapport entre l'actuel et le virtuel, évidemment, hein, au sens de Bergson du terme, et évidemment le rapport entre action et représentation. Et donc c'est ce rapport entre action et représentation qui va être finalement un peu au cœur de la soirée d'aujourd'hui, vu qu'elle est consacrée essentiellement au théâtre. Donc hier, rapidement, hein, donc il y a eu donc M. Alain Charméjean, professeur d'esthétique et Aix-Marseille Université, Mme Natacha Punier, Prague à Aix-Marseille Université, et Samuel Tronson, postdoctorant à l'Université de Paris 8, qui ont donc proposé donc des interventions sur ce thème-là. Donc en fait, je vais juste résumer très rapidement ce qui s'est dit, hein, pour faire le lien avec hier soir, parce que comme ça, il y aura peut-être une continuité avec ce qui va se dire là. Donc pour Alain Charméjean, il s'agit donc de penser double sur la notion d'identité à travers la notion d'impossible identification au réel. Pourquoi? Parce que le réel est ce qui est, mais nous, donc là j'ai les sens suspens, mais nous n'arrivons pas à nous tenir au réel. Donc il y a une certaine impossibilité de nous tenir au réel qui finalement suggère, hein, qui suscite la thématique du double, qui suscite l'apparition du double, cette impossibilité de nous tenir au réel qui pourtant est la seule chose qui est. Donc c'est un peu le propos d'Alain Charaméjean hier soir, pour résumer. Ensuite, il y a eu une intervention sur la notion de double à travers l'art et à travers la notion de performance et comment est-ce que les artistes font jouer à travers leur propre image. Et donc, c'était donc toute une série d'interventions sur une série d'images sur liées, de fausses autoportraits ou plus exactement de fausses imitations d'autoportraits, donc avec toute la notion de pop art. Et enfin, la dernière conférence, qui s'agissait de penser la notion de dédoublement sous la notion d'interaction, c'est-à-dire penser que finalement la relation est première et que le sujet, c'est ce qui est simplement défini par la relation. Et donc ça, c'est cette distinction entre ces deux notions, double et dédoublement, un double lié à l'identité, dédoublement lié à l'interaction et au processus. Donc ce soir, donc les questions, c'est donc de théâtre. Donc la séance est intitulée Le théâtre et ses doubles, en référence bien entendu au texte d'Antonin Artaud, Le théâtre et son double, même s'il ne va pas forcément être question de ce texte ce soir. Donc première partie de cette soirée, donc un entretien entre Ismaël Jude, qui est donc doctorant à Paris 4, et Denis Guénoun, qui est donc professeur de littérature à Paris 4 et visiting professeur à Princeton University, entre autres. Donc il est aussi auteur donc de nombreux essais sur le théâtre. Il est aussi metteur en scène et acteur, et aussi directeur de théâtre, et Ismaël Jude est aussi écrivain et aussi écrivain de théâtre. Donc ils ont les deux à la fois, on va dire, c'est à la fois des praticiens et des théoriciens du théâtre. Et donc il va y avoir un entretien entre les deux sur la notion de dramatisation. Et donc je leur laisse la parole.
Merci Jean-Yves. Merci de m'avoir invité à parler du double dans le cadre que tu viens d'exposer. Et merci d'avoir pensé à cette formule de double intervention que nous on a transformée en discussion. On s'est mis d'accord, on a dit on va... Donc une discussion qui partira d'une proposition que je vais faire sur la méthode de dramatisation chez Gilles Deleuze, mais plus particulièrement ce qu'il met à jour dans l'épreuve des prétendants chez Platon. Alors cette discussion avec Denis Guénoun est justifiée à plus d'un titre, et donc notamment parce que pour les gens qui travaillent sur le rapport entre théâtre et philosophie, Denis est incontournable. Donc il y a parmi les livres qui ne quittent pas notre table de travail, le théâtre est-il nécessaire, action et acteur, raison du drame sur scène. Enfin, les gens qui travaillent sur théâtre et philosophie savent ça, bien sûr. Donc sans flagornerie, donc déjà ça justifie la discussion entre nous. Par ailleurs, c'était aussi le thème d'un séminaire que Denis a animé, le groupe de recherche théorique, pendant une année universitaire, donc l'année précédente. Et c'est un peu dans le prolongement de ce qui s'est dit au GRT que peut se placer cette discussion. Et la troisième raison, en fait, parmi tant d'autres, c'est aussi la toute récente mise en scène du banquet de Platon, qui moi m'avait beaucoup touché par rapport, déjà pour sa qualité, mais aussi par rapport à ces thèmes de recherche, enfin à nos thèmes de recherche, le rapport entre le théâtre et la philosophie, et le fait de pouvoir voir sur scène Platon comme un auteur dramatique confirmait pas mal de choses. Donc je fais une petite proposition d'une demi-heure et ensuite on discute de façon ponctuelle, libre. Donc en effet, je voulais parler du rapport entre théâtre et philosophie chez Platon, et inverser la formule d'Antonin Artaud et dire non pas le théâtre et son double, mais la philosophie et son double, en sachant que ce double de la philosophie, ce serait précisément le théâtre. Donc le platonisme et son double, sachant que ce double du platonisme, ce serait un renversement du platonisme qui doit beaucoup à une conception dramatique du théâtre. Donc. c'est un peu une sorte de maître mot du platonisme qui viserait à dire l'homme double doit être distingué du philosophe. C'est un peu son Carthago d'Hélène d'Aest. Et cet homme double, c'est bien entendu le sophiste, mais d'une certaine façon, c'est aussi l'homme de théâtre. Donc je cite par exemple La République, où Platon dit « Chez nous, il n'y a pas d'homme double ni multiple, attendu que chacun n'y fait qu'une seule chose. » Donc il faut que chacun fasse une seule chose, que le laboureur soit seulement laboureur, que le juge soit juge, etc., le médecin, médecin. Or, l'homme de théâtre, acteur, comédien, c'est le type même de celui qui se joue de la duplicité, qui n'est pas seulement ce qu'il doit être. Donc je cite encore Platon. « Si donc un homme en apparence capable par son habileté de prendre toutes les formes et de tout imiter, venez dans notre ville pour s'y produire, lui et ses poèmes, nous le saluerions bien bas, comme un être sacré, étonnant, agréable. Mais nous lui dirions qu'il n'y a point d'homme comme lui dans notre cité, qu'il ne peut y en avoir, puis nous l'enverrions dans une autre ville, après avoir versé de la myrrhe sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes. » Donc c'est un étrange couronnement, hein, de cet homme double, considéré comme un dieu, au moment même où on lui demande de prendre congé. Exactement comme on demande à Ulysse, lorsqu'il apparaît à Ithaque sous les traits de l'étranger, de partir. On le considère à la fois comme un dieu, on lui doit ce respect, mais en même temps, en tant qu'homme double, on lui demande de quitter la cité. Retenez bien cette figure, elle est assez importante dans le développement que je vais donner assez rapidement par la suite. Donc, il y a une assez célèbre hostilité du platonisme à l'encontre du théâtre en tant qu'art du double. Enfin, on va dire ça comme ça pour l'instant. Ce qui conduit Deleuze à parler du simulacre comme de l'étrange double qui hante le platonisme dans différentes répétitions. Donc, il s'agit en quelque sorte pour le platonisme d'exorciser ce double. Cet effort pour se départager de son double, Deleuze le voit à l'œuvre dans la méthode de Platon, dans sa façon de faire la philosophie. Or, cette méthode, il l'appelle dramatisation. Donc là, on saisit tout le paradoxe, en fait, que je vais essayer de débrouiller maintenant. C'est qu'il appelle dramatisation une méthode qui vise à écarter le double dont, rapidement, comme ça, j'ai commencé à dire qu'il avait à voir avec le théâtre. Donc, pour tenter de comprendre ce rapport paradoxal entre philosophie et théâtre chez Platon, on va d'abord essayer de voir ce qu'il y a de problématique aux yeux de Platon dans le théâtre, assez rapidement, d'examiner la méthode de Platon et de voir dans quel sens on peut dire que cette méthode est dramatique, un premier niveau de description de la méthode. Ensuite, on examinera une figure que Deleuze voit à l'œuvre dans le platonisme qui s'appelle l'épreuve des prétendants, qui va nous permettre de comprendre en quoi consiste la dramatisation et en quoi c'est une dramatisation. À ce moment-là, on fera un bref détour par Marivaux pour éclairer cette figure de l'épreuve des prétendants, essayer de mieux comprendre ce qu'il se joue. Et enfin, on devrait dégager de cette méthode une conception dramatique de la philosophie. Alors, je pars d'un texte assez célèbre pour les gens qui travaillent sur le rapport entre théâtre et philosophie et sur le drame. C'est la définition dans le livre 3 de la République par Platon, la distinction entre trois types de discours que sont le récit, la mimésis et le récit mixte. La mimésis et le récit mixte. Donc trois types de discours. Et pour expliquer la différence entre donc mimésis et diégésis, Platon prend l'exemple de l'Iliade. Donc il montre qu'Homère, donc le poète, le conteur, parle d'abord à la première personne et du personnage dont il parle à la troisième personne, comme il se doit. Donc là, on est dans le cas de la diégésis du récit. Et ensuite, il fait parler le personnage comme si c'était lui, en fait. Le conteur se met à jouer le personnage pour parler avec des mots d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la diégésis, qui est un discours à la première personne, la mimésis est la simulation d'un discours à la première personne. J'emploie le mot simulation volontairement en reprenant l'expression de Roland Barthes, qui explique que sa méthode dramatique pour écrire les fragments d'un discours amoureux a consisté à simuler un discours à la première personne. Donc, l'acteur, si on veut, au lieu de parler de son personnage comme de quelqu'un qui serait là devant lui, il le joue, donc il simule comme si c'était lui. Donc, à l'inverse de la diégésis, dans le mode dramatique d'énonciation, l'origine du discours est inassignable, indiscernable. Donc c'est la simulation du discours d'un autre avec l'illusion d'un discours de celui-là même que nous écoutons. Enfin, la formule est assez alambiquée parce que je la lis, mais c'est exactement ce que je viens de dire avant et qui était beaucoup plus simple. Le poète qui joue ses personnages, le simulateur, celui que nous appellerions donc acteur, est discrédité par Platon du fait de cette duplicité. Il y a une part de dissimulation dans la mimésis. Donc, il y a une sorte d'absence dans l'énonciation dramatique, il y a une sorte d'absence du poète par rapport, il se retire en fait, par rapport au discours qu'il énonce. Donc on peut caractériser, avec Denis Guénoun, le drame par, donc je cite, l'unicité d'une voix distribuée en voix diverses, dont la diversité n'est jouable que sous condition d'éclipse de la voix solitaire qui la porte, sous condition d'aphonie jouée du poète, d'un silence fictivement imposé à l'unité d'élocution, par quoi le drame est porté. Donc ça c'est dans action et acteur, soit une multiplicité des voix sauf une. Donc c'est bien la disparition de l'un, du même, sous la multiplicité de ses doubles, qui porte un certain discrédit sur le drame. Donc une des caractéristiques du drame qu'on vient de déduire de Platon, c'est donc l'absence de l'énonciateur qui parle en son nom propre, ou la présence d'une voix unique dissimulée dans les voix multiples des personnages. Il y a simulation et dissimulation. Alors l'énonciateur est à la fois omniprésent, mais il est toujours caché. Donc on passe au deuxième point, qui est la méthode de Platon, et on remarque une chose assez intéressante. Ce mode d'absence-présence de l'auteur dramatique, comment ne pas voir en effet, qui correspond à peu de philosophes aussi bien qu'à Platon lui-même comme auteur. Non seulement Platon écrit des dialogues, bon, ça tout le monde s'en souvient, mais il est à la fois parfaitement absent de ces dialogues et en même temps omniprésent. Je prends un exemple assez significatif pour ça, c'est l'exemple du Phédon, où il est question d'authentifier un témoignage direct des personnages quant à une scène qui a eu lieu entre Socrate et d'autres interlocuteurs, de savoir qu'a dit Socrate et qu'a-t-il fait en fait. Et on demande à Phédon la liste des gens qui étaient là pour témoigner de cet événement. Et là, il y a quelque chose d'assez ironique, c'est qu'à la fin de la liste, Phédon nous dit « Platon, je crois, était malade ». C'est-à-dire que Platon lui-même est triplement absent de ces dialogues. Non seulement, effectivement, il n'apparaît pas comme personnage, il écrit des dialogues, donc il est dans le mode d'énonciation dramatique que j'ai décrit tout à l'heure, qui suppose une absence. Et troisièmement, il n'était même pas là, pour raconter la scène. Donc il est délibérément absent. Il y a un autre niveau d'absence de Platon dans ses dialogues, et c'est une conséquence, c'est que jamais il ne semble s'exprimer en son nom propre. Il s'attarde à multiplier les perspectives, à proprement imiter les discours de certains de ses contemporains, commencer par Socrate ou d'autres personnes ayant vécu. Sa voix est donc indiscernable. Ce que je veux dire par là, c'est que Platon ne soutient pas une thèse constituée en système, en fait. Il présente sa philosophie sous forme de dialogue dont on ne sait pas ce que Platon lui-même on ne sait pas vraiment en fait ce que Platon lui-même veut dire, ce qui conduit Monique Dixo à dire que Platon est obstinément absent et délibérément anonyme. Ça fait vraiment partie de sa méthode. Donc il a vraiment cette caractéristique de l'auteur dramatique ou de l'énonciateur dramatique d'être à la fois omniprésent et délibérément absent. Donc sa voix est indiscernable, hein, pour reprendre les mots que j'employais tout à l'heure. Donc on peut considérer, voilà, je vais très vite, hein, mais que l'absence de Platon dans ses dialogues, ce n'est pas un défaut, mais un véritable procédé d'écriture qui fait partie de sa façon de faire de la philosophie. Sa méthode est donc à un premier niveau dramatique. Parce qu'il y a, d'autres philosophes qui ont écrit des dialogues. Je prends que l'exemple de, Leibniz, Les nouveaux essais sur l'entendement humain. Il y a un des deux personnages qui est clairement identifiable comme défendant les thèses de Leibniz. Mais Platon, lui, il est absent. Et à la fois, en même temps, omniprésent. Donc, maintenant, on en vient à ce que Deleuze appelle proprement la méthode de dramatisation et l'épreuve des prétendants. Donc, la méthode de Platon, c'est historiquement la dialectique ou la division. Pourquoi Deleuze appelle la méthode de division dramatisation? On va essayer de comprendre ça maintenant. Donc, Platon part d'une fonction, par exemple dans le politique, chef politique, pasteur des hommes. Et une fois que cette fonction est définie, il y a une foule, une masse indifférenciée de prétendants qui se présentent et qui veulent tous prétendre à cette fonction. Et c'est là, pour Deleuze, que commence le problème. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire la différence entre les prétendants. C'est parce que les prétendants sont au départ tous confondus dans une masse et prétendent tous à la même fonction que c'est ça l'enjeu de la différence, qu'il va falloir faire la différence. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la méthode de dramatisation. Et c'est ça que Deleuze appelle l'épreuve des prétendants. Il faut mettre à l'épreuve les prétendants pour sélectionner le bon et écarter le mauvais prétendant. Alors, je saute un passage. Alors voilà une citation du politique pour faire sentir ça, mais je pense que c'est assez clair. Platon dit « Tous les commerçants, laboureurs, boulangers et aussi les maîtres de gymnase et la tribu des médecins, tous ces gens-là pourraient fort bien soutenir, avec force raison, contre ces pasteurs des hommes que nous avons appelés des politiques, que ce sont eux qui s'occupent de nourrir les hommes, et non seulement ceux du troupeau, mais aussi leurs chefs. » Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde, il y a une sorte de brouhaha comme ça, et tout le monde dit « c'est moi, c'est moi ». Donc il y a d'abord cette foule des prétendants, et il faut faire la différence entre eux. Il faut sélectionner le bon prétendant. Alors comment se fait la sélection du bon prétendant? Elle se fait, d'après Deleuze, par ressemblance au fondement. Et le fondement lui-même est identique à lui-même. C'est par ressemblance à ce qui est identique à lui-même qu'on fait la différence entre les bons et les mauvais. Les bons sont ceux qui sont dans la conformité au fondement. Et les mauvais sont écartés en tant que non conformes. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que cette sorte de geste de Platon, elle a une affinité avec son rejet du théâtre. Ce qui disqualifie le théâtre par opposition au discours narratif, on a vu tout à l'heure, c'était la façon dont il produit son discours. Il y a un surgissement du multiple qui engendre la confusion, et ce multiple, dans ce multiple, il n'est plus possible de faire la différence. Et Platon établit un lien très fort entre le théâtre et la mauvaise multiplicité. Donc je cite Platon, « Le caractère sage et tranquille n'est pas facile à imiter, ni si on l'imite, facile à concevoir, surtout pour une foule en fait et pour des gens de toutes sortes assemblés dans un théâtre. » Donc ça, c'est dans la République. Et dans la politique, la cohue fort nombreuse, donc des prétendants, hein, Platon la compare à un chœur, à une assemblée en fait, qui participe à une Dionysie. C'est dans la politique. Donc je cite cette fois Platon, je cite la politique. Leur espèce comprend une foule de variétés, comme à l'examen cela se voit immédiatement. Parmi ces hommes, beaucoup ressemblent à des lions, à des centaures et autres pareilles bêtes, tandis que la plus grande majorité ressemble plutôt aux satyres, ainsi qu'aux animaux qui manquent de force, mais abondent en ruse. Ils ont vite fait, d'autre part, d'échanger entre eux leur caractère et leurs aptitudes propres. » Donc il décrit vraiment ça comme une Dionysie. C'est il désigne ici, comme devant être écarté, ce que Nietzsche présente dans la naissance de la tragédie, comme le fond originel dionysiaque de la tragédie, un art de la métamorphose qui réside dans une confusion originelle du cœur et du public. C'est une procession, une multiplicité comme ça en procession. Alors c'est en tant qu'assemblée populaire en fait que Platon semble vouloir exclure ce cœur dionysiaque de la cité. Je cite Platon, « Allons bon, c'est pour nous bel et bien comme un drame !» s'exclame l'étranger. « Ne disait-on pas en effet tout à l'heure, Avoir devant les yeux une compagnie dansante, un tiarce de centaures et de satyres qu'il s'agit d'exclure de l'art politique. Donc la référence au théâtre et la présence du mot « drama » qui est si rare chez Platon est ici très significative. En effet, la masse indifférenciée des rivaux évoque une multiplicité dont les éléments entrent dans des métamorphoses incessantes. Le cœur dionysiaque présente à l'échelle d'une foule les caractéristiques déjà repérées tout à l'heure dans le mode d'énonciation dramatique, cette métamorphose, ce dédoublement. Donc comme le dit Nietzsche, pour peu qu'on ressente l'envie de se métamorphoser soi-même, de vivre et d'agir par d'autres corps et d'autres âmes, on est dramaturge. L'excitation dionysiaque a le pouvoir de communiquer à toute une foule ce don artistique de se voir entouré d'une semblable cohorte d'esprit avec laquelle elle se s'est confondue. Ce processus du cœur tragique est le phénomène dramatique originel. Se voir soi-même métamorphosé devant soi et agir alors comme si l'on était passé réellement dans un autre corps, dans un autre personnage. Donc, on voit à quel point... on voit à quel point cette volonté d'exclure le double a à voir avec c'est la même raison qui pousse à exclure la multiplicité qui a lieu dans le théâtre. Donc maintenant, enfin, on va se demander pourquoi cette épreuve des prétendants est-elle une dramatisation d'après Deleuze. Parce que dramatisation, vous avez bien compris que Platon n'emploie jamais ce mot-là. C'est Deleuze qui, d'une part, appelle la méthode de Platon dramatisation, et d'autre part, fait ressortir cette figure, ce schéma qu'il appelle l'épreuve des prétendants. Donc, dans plusieurs textes, notamment dans Différence à répétition, dans Logique du sens, Deleuze fait correspondre cette épreuve au canevas d'un drame. Un drame qui se présente entre trois personnages principaux, le père, la fille à marier, et les prétendants qui se présentent devant le père pour épouser cette fille. Donc, de même, enfin, c'est un peu la même figure que ce que je décrivais tout à l'heure si vous me suivez, il s'agit de faire la différence entre les différents prétendants et de d'élire le bon prétendant. C'est pour ça que ça s'appelle donc une épreuve des prétendants, une sélection des prétendants. Alors, c'est maintenant qu'on va faire le petit détour par Marivaux et constater que ce schéma, le même schéma a lieu chez Platon, Marivaux, et qu'il est, est manifestement issu d'une certaine façon de l'Odyssée d'Homère. Homère revient à Ithaque après sa longue... Ulysse, absolument. Je m'emporte un peu. Donc, c'est bien Ulysse qui revient à Ithaque et qui met à l'épreuve non seulement les prétendants de Pénélope, mais Pénélope elle-même, Télémaque et tous ses domestiques. Il met à l'épreuve, mais de façon très concrète, Et donc, c'est même des concours parfois. Il y a l'arc, il y a toutes sortes de concours pour savoir qui est fidèle, qui lui est resté fidèle, pour sélectionner les bons prétendants et exclure les mauvais. Avant de reprendre ses traits. Parce que quand il est dans la position du sélectionneur, ça c'est très intéressant, il est sous les traits de l'étranger. Comme dans le sophiste, l'étranger est présenté comme une figure de Dieu qui revient. L'allusion à l'Odyssée est dans Platon elle-même. Donc celui qui peut faire la différence ou la sélection, mettre à l'épreuve les prétendants, donc est considéré comme un dieu, mais il est à la fois le mari légitime de Pénélope, le père de Télémaque, il est le roi d'Ithaque, il est aussi le prétendant légitime puisqu'il est le... J'ai sauté une page. Enfin, il est le propriétaire du palais et des biens que les prétendants sont en train de gaspiller. Donc, il a toutes les légitimités entre ses mains, le sélectionnaire, donc Ulysse. Il a la légitimité politique, familiale, conjugale, domestique. Il est roi, père, mari, maître. Donc, c'est le maître qui se rapporte à ceux qu'il met à l'épreuve sur ce mode de dissimulation dramatique. Il est absent. Il faut qu'il soit absent pour mettre les autres à l'épreuve. C'est ça que j'essaie de montrer. C'est là où j'essaie de montrer qu'il y a un caractère dramatique. Ulysse ne se présente pas d'abord comme Ulysse lui-même. Pour sélectionner les prétendants, il faut qu'il se dissimule sous les traits donc de l'étranger et du mendiant. C'est très important. Donc, l'épreuve de Marivaux, on y vient enfin. Et donc, dans l'épreuve de Marivaux, on a un jeune homme riche qui s'appelle Lucidor, qui veut savoir si sa fiancée l'aime pour lui-même ou pour son argent. Et alors, il met à la fois Angélique et se met lui-même à l'épreuve d'une certaine façon. Il se crée un double qui est joué par son valet Frontin, qui va avoir tous les traits, exactement les mêmes traits que Lucidor, ce qui va permettre de mettre Angélique à l'épreuve parce qu'elle va devoir choisir lequel des deux est le bon prétendant. Et c'est aussi une épreuve pour lui. Il se met lui-même à l'épreuve dans la mesure où il va être sélectionné lui-même si elle l'aime pour lui-même et non pas pour son argent. Il faut faire la différence entre l'or de Lucidor et l'homme d'argent, en fait. Donc, on voit bien que dans l'épreuve, pour aller très rapidement, il s'agit de se sélectionner lui-même, en fait. D'être aimé pour lui-même, d'être sélectionné comme même, d'une certaine façon. Il y a une autre comédie de Marivaux où c'est encore plus clair, en fait. Je suis pas tout seul à le penser. Michel Deguy le dit très bien dans La machine matrimoniale. La figure de l'épreuve, c'est le titre d'une pièce, mais c'est aussi une figure récurrente, en fait. En tout cas, présente dans beaucoup de pièces. Donc, l'autre pièce, c'est La femme fidèle, où là, la référence à l'Odyssée est encore plus claire. C'est une reprise sur le mode comique de l'Odyssée. On a un marquis qui revient d'un long exil qu'on considère comme mort et qui met le prétendant de sa femme et sa femme à l'épreuve pour savoir si ils lui sont restés fidèles. Et il y a deux choses tout à fait intéressantes. C'est que Marivaux joue sur l'effet comique de la situation où ce personnage du marquis est amené à témoigner de sa propre mort. Il y a un autre personnage aussi de valet qui ils sont obligés de raconter comment ils ont vu mourir leur double. Enfin, eux jouent le double et ils racontent comment le même est mort. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que celui qui met les autres à l'épreuve est dans la position de témoigner de sa propre disparition pour finir par reparaître et que les autres s'exclament, c'est lui-même. Le moment de surprise où l'autre est sélectionné, enfin, le double est sélectionné comme même, c'est lui-même. Et c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de Marivaux. C'est pour ça que on repère le même schéma, la même figure que ce qui a lieu chez Platon, si vous m'avez suivi. Donc, on pourrait dire avec Michel Deguy, qui a écrit un livre sur Marivaux qui s'appelle « La machine matrimoniale », que l'épreuve a pour fonction la conjuration de la menace de son double. La démultiplication des êtres, toujours en même temps vraisemblable et fonctionnelle, permet le triomphe de l'unité dans la diversité et sur le risque de la mauvaise multiplicité. Donc, Michel Deguy, quand il dit ça, ne parle pas explicitement ni de Platon ni de Deleuze, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez proche que je veux dire. Donc, la fin des comédies de Marivaux, c'est toujours l'harmonie retrouvée, les amants réunis, c'est-à-dire celui qui convient marié à celui qui convient, ou celle qui convient mariée à celui qui convient. Une fin heureuse où toutes les différences sont passées par le crible de l'épreuve se réajustent. Non seulement la différence interne, qui est la fêlure de l'amoureux qui se sent pas aimé pour lui-même, mais les différences sexuelles, hommes-femmes, sociales, maîtres et serviteurs, générationnelles, jeunes et vieux. Chacun est avec celui qui convient. Donc dans l'union finale, les rivaux sont écartés, les différences ne sont pas abolies, mais ajustées dans une harmonie des convenances légitimes. Chacun ayant repris la place qui lui convient et uni à la personne qui convient. Donc voilà pour Marivaux. Donc il y a un schéma en fait qui me semble assez similaire et une différence assez notable, c'est que chez Marivaux, c'est le même qui est à la fois sélectionneur et sélectionné. C'est Ulysse qui se sélectionne lui-même. Chez Platon, en fait, je serais conduit à dire qu'il y a une sélection du même, mais que ce n'est pas le père qui sélectionne. Le père sert de fondement. Alors le père dans l'élaboration de Deleuze, c'est le fondement, donc, c'est l'idée. Donc c'est en fait une théorie de l'idée, hein, ce qu'on appelle l'idée avec un grand I, ou le mythe, en fait. Ce qui sert de critère, ce qui sert de fondement, qui est en retrait, comme ça, comme le père, comme l'absent, comme ce qui est dissimulé, comme Ulysse sous les traits de, du mendiant, ça, c'est joué par, le, par l'idée. Donc, c'est quand même un geste philosophique qui est assez fort, un renversement du platonisme. Donc, ce qu'il y a de dramatique dans la sélection, c'est cette absence, ce recul du critère de sélection. Donc voilà maintenant, voilà où je voulais en venir pour montrer qu'en fait, il y a une utilisation chez Platon des moyens de la dramatisation contre le théâtre, d'une certaine façon. Alors maintenant, je vais conclure sur la conception dramatique de la philosophie avant qu'on discute de tout ça ensemble. Donc, Deleuze montre que le problème de Platon, c'est donc la sélection du même. C'est bien, la question, c'est bien de faire la différence, mais pour Platon, faire la différence, c'est faire la différence entre le même et son double, enfin, pour employer les mots du séminaire, le même et celui qui simule la conformité. Donc, renverser le platonisme ou dramatiser va consister pour Deleuze à traquer cette motivation de Platon. Et donc, Deleuze fait ressortir un drame de Platon. Il montre comment Platon dramatise. Donc, il y a la méthode de dramatisation de Platon que j'ai essayé de vous faire sentir, mais il y a aussi la méthode de dramatisation de Deleuze, qui est un deuxième niveau, qui est une façon d'interpréter comme dramatique un cheminement de pensée. Donc, il y a une dramatisation qui désigne le cheminement de la pensée, la méthode, la façon dont la différence se fait. Et puis, il y a une autre dramatisation qui consiste à faire ressortir ce cheminement. Donc, cette façon d'aborder l'histoire de la philosophie, c'est un renversement du platonisme parce qu'elle consiste à défendre l'idée d'une dramatisation, l'idée qu'il y a une dramatisation, que la pensée dramatise, voilà, pour le dire simplement. Alors, juste, non, mais je vais peut-être pas parler de Nietzsche et Kierkegaard maintenant parce que là, on a déjà dit beaucoup de choses. Mais simplement dire que en fait il y a aussi ce renversement du platonisme dans l'idée de proposer une autre dramatisation, une autre épreuve qui ne serait pas sélection du même mais sélection de la différence, donc l'éternel retour. Mais je tiens à rester sur Platon parce que c'est déjà pas mal. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais proposer à la discussion. Si tu veux. 1, 2. Je l'ai tout mouillé. Mes mains moites.
Je ne sais pas du tout ce que je peux dire là d'emblée. Je trouve que ce que Ismaël vient de dire est extrêmement clair, enfin en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans cette conversation continuée, pour moi c'est très très clair, très éclairant aussi. Et le rapport extraordinairement compliqué que tu arrives à présenter, tu nous donnes presque l'impression qu'il est simple, ce qui est un grand talent parce que quand on lit ces textes, d'une part les textes de Deleuze et d'autre part les textes de Platon auxquels tu t'es référé, c'est très très difficile avant de les avoir labourés plusieurs fois, de savoir vraiment ce qu'ils veulent dire à cet égard. Donc, dans le dispositif que tu as présenté, il y a matière à parler des heures puisqu'il y a énormément de plans différents. Alors j'aimerais, je ne sais pas, faire peut-être... deux observations. La première concerne ce rapport très étrange dont tu n'as pas arrêté de parler entre théâtre et philosophie en un certain sens, en tout cas tel que tu les convoques ici, c'est-à-dire le fait qu'il y a apparemment dans une certaine philosophie qu'on pourrait considérer comme classique en un certain sens. Enfin, il y a certain, apparemment une méfiance à l'égard du théâtre, un écart devant le théâtre, une sorte d'accusation, pour les raisons que tu as dites, et le fait que cette accusation se met en œuvre ou en jeu, parfois de façon particulièrement évidente, parfois de façon un peu plus discrète, avec des moyens théâtraux. Bon. C'est ce que tu as. C'est un des fils de ton exposé sur le fait que la dramatisation, c'est à la fois quelque chose qui caractérise. Enfin, le drame, c'est quelque chose qui caractérise l'opération théâtrale, dont Platon, par exemple, se méfie intensément, ou paraît se méfier intensément, et qu'il accuse. Et d'autre part, cette accusation est elle-même mise en jeu à l'aide d'une sorte d'opération qui est une opération de dramatisation. Alors cette ambiguïté est extraordinaire. Enfin, nous l'avons senti, nous, il y a quelques mois, lorsque, avec un groupe d'une quinzaine de comédiens, on a tenté de relever le défi de faire du Banquet de Platon un moment de théâtre, pour une raison très simple que tu as évoquée, sur laquelle je reviens, c'est que la pensée de Platon dans ce dialogue-là, dans beaucoup d'autres, mais dans ce dialogue-là de façon particulièrement claire, n'est jamais prise en charge ni par un personnage, ni par une instance quelconque, de façon comme une thèse, qui dirait voilà, c'est ce qu'il faut penser. Dans le dialogue de Platon, c'est particulièrement clair, puisqu'il s'agit d'une compétition, ils prétendent à quelque chose, ce sont des prétendants, il s'agit d'une compétition, de discours, dans laquelle s'énoncent successivement sept doctrines de Eros, puisque c'est Eros qui est le sujet de la compétition, cette doctrine sur la nature de l'érotique, et que ces sept doctrines qui s'énoncent successivement sont très cohérentes, chacune, assez accomplies, assez fermées sur elles-mêmes. Enfin, il y a un jeu de réponses entre certains de ces discours, mais assez accomplies dans leur autonomie, dans leur force propre. Et en gros, vraiment assez, enfin, très distinctes, incompatibles sur certains points, et très différentes les unes des autres. Alors, on pourrait croire que Socrate est, dans ce dialogue comme dans d'autres, le porte-parole de ce que pense Platon. Mais d'abord, c'est compliqué de savoir ce que pense Socrate, puisque dans ce dialogue comme dans d'autres, il refuse de le dire, et que lorsqu'il se trouve convoqué à donner sa propre thèse sur Eros, il refuse. Il dit « Non, je ne vais pas le faire. Ça, on l'a fait trop bien, les autres ont été trop forts, moi je ne peux pas faire ça. » Donc, il refuse de le faire, donc il ne fait pas de discours Et ce qu'il va accepter de faire, après des réticences, c'est de rappeler le souvenir de quelqu'un, une femme, alors que c'est une assemblée d'hommes, et qu'il s'agit principalement de l'amour entre hommes, pas seulement, mais principalement de l'amour entre hommes, de l'éros entre les hommes. C'est une femme qui va dire le point de vue que Socrate souhaite rapporter, que ce point de vue de cette femme, Diotime, qui est absente, hein, encore une qui donne en un certain sens la clé du truc, elle est doublement absente, d'abord parce qu'elle n'est pas là, ensuite c'est une femme. Hein. Et au début du dialogue, on a pris même soin d'exclure la seule femme qui était là, qui était une espèce de joueuse d'instrument de musique, et les personnages ont dit avec une grande brutalité, non, celle-là on la vire, parce qu'on va parler d'amour, de choses sérieuses, donc il ne faut pas une fille là. Bon. Et donc, ils parlent d'amour entre eux, à tous les sens de ce syntagme, et puis, quelqu'un qui est doublement absent comme femme vient donner en quelque sorte un point de vue, qui est manifestement un point de vue majeur, dont on pourrait croire que c'est celui de Platon, de Socrate, dont on pourrait croire que c'est donc celui de Platon. Mais il y a toute une série de petites opérations de démenti qui prouvent, je ne vais pas ici vous raconter le détail, clairement que même si Socrate a été profondément influencé par cette femme, dont il dit qu'elle lui a tout appris en matière d'érotique, ce qui veut tout dire, C'est d'elle qui tient tout ce qu'il sait sur l'Eros. Même s'il a été très influencé par elle, on peut montrer que sa position n'est pas exactement la position qui est défendue par Diotime, et qu'en tout cas, rien ne permet de dire que ce soit la position de Platon, puisque la position de Socrate elle-même est à certains égards un peu, comment dire, un peu mise à distance après. Donc on se trouve devant des gens bon voilà, et qui disent chacun une thèse sur l'amour, et puis bon, il n'y a pas, on ne sait pas, enfin, c'est par un coup de force qu'on pourrait dire c'est Platon. D'ailleurs, Deleuze ne le fait jamais. Deleuze parle du platonisme, ce qui est autre chose. Le platonisme est une construction historique qui est arrivée bien après Platon, une série de thèses que dans l'histoire de la philosophie, on a attribué, on en a fait un corps de doctrine qui est le platonisme. Ça existe. Mais la pensée de Platon comme telle sur ces points-là, elle reste en un certain sens absente ou énigmatique. Donc, alors on a fait l'expérience de ça. C'est la première chose que je voulais dire de façon très 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 conforme à ce que tu viens de raconter. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est pour ouvrir notre conversation avec toi et peut-être avec vous si vous voulez, je l'espère. La deuxième chose que je voudrais dire, quand j'ai beaucoup pensé en t'écoutant, c'est que évidemment, quand il s'agit de cette duplicité, de cette position de doublage, de dédoublement, et qu'on pense au théâtre, on pense évidemment aux acteurs, hein, comme tu l'as dit. Bon, faudrait d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire ici, faudrait peut-être prendre le temps très soigneusement de montrer que la thèse de Platon, même si elle éclaire beaucoup, la thèse qui est dans Platon, même si elle éclaire beaucoup nos réflexions sur les acteurs, dans Platon ne porte pas sur les acteurs, elle porte sur les poètes. Bon. Mais ceci est un point de précision voilà, qui n'est pas forcément utile ici. Mais enfin, on ne peut que penser beaucoup aux acteurs. Et c'est vrai que quand un acteur joue, on a l'impression qu'il est toujours intrinsèquement et nécessairement dans une position de duplicité. Cette position a été éclairée dans la philosophie à partir de Diderot, elle a été travaillée à partir de Diderot, qui dit « je ne le suis pas puisque je le joue ». D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui dit ça dans un dialogue. Enfin, bon, le rapport est en abîme, là. Et donc, je ne le suis pas puisque je le joue. Donc, il y a ce que je suis et ce que je joue. Hein, ce sont deux choses absolument intrinsèquement différentes. Donc, au moment où je joue, je suis ce que je suis, bien sûr, je le suis, ça, je ne peux pas faire autrement. Et puis, je mets en jeu ce que je joue. Et donc, à ce moment-là, il y a cette espèce d'opération de dédoublement dont je crois que vous avez beaucoup parlé, si j'en juge par les documents préparatoires, ce qui fait l'objet des conversations de ces deux journées. Or, en général, on dit que ce dédoublement, c'est entre l'acteur et le personnage. Et il y a une idée un petit peu, disons, courante qui semblerait penser que le personnage c'est quelqu'un et l'acteur c'est quelqu'un, et puis voilà, l'acteur se met à imiter quelqu'un, comme si je disais par exemple, voilà, c'est monsieur et moi je vais jouer monsieur, donc je vais faire mon possible pour que vous me preniez pour monsieur. Ça ne sera pas de la tarte, mais enfin, il faudra s'y mettre. Bon. Or, cette affaire se complique parce que le personnage, c'est évidemment personne, comme d'abord l'indique son nom. Et c'est personne. Il n'y a absolument personne. Le personnage, c'est personne. Ça n'a jamais été quelqu'un. Le personnage de théâtre, c'est un rôle. Rôle veut dire un ensemble de répliques. Rôle vient du italien ruolo, qui veut dire un rouleau. Et le rouleau, ça vient du fait que quand on travaillait au théâtre, avant que les documents imprimés fussent d'usage courant, on remettait à chacun des acteurs sa partie, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, part, qui veut dire rôle, ou sa partition, si vous voulez, son morceau. Et c'était ce qu'il avait à dire. Seulement lui, d'ailleurs. Et le rôle, c'était l'ensemble des mots qu'il avait à dire. D'ailleurs, j'ai vu que, puisque grâce à à Ismaël, et grâce à cette séance, j'ai relu l'épreuve, et puis lu La femme fidèle. J'ai vu que La femme fidèle, c'est un texte qu'on n'a pas, et qui a été reconstitué à partir des parties d'acteurs, comme ça. D'ailleurs, c'est un texte, on a retrouvé des documents qui sont en fait des rôles, si j'ai bien compris, hein, d'acteurs. Et c'est pour ça que le texte est une espèce de montage un peu... Voilà. Donc, le personnage, c'est ça. Ce sont un ensemble de phrases qui sont attribuées à une fonction d'énonciation, quelqu'un qu'on va appeler A, B, C ou D, on peut lui donner le nom d'un personnage de fiction. Bon, ça c'est le rôle. Et ce rôle se met en jeu à travers tous les comédiens qui vont le jouer successivement. Dans le cas d'une pièce ancienne ou qui a un relatif succès, on a à l'esprit une série de gens différents qui jouent ce rôle, hein, ce même rôle. Donc si on regarde comment ça marche avec ton schéma, c'est exactement la même affaire, c'est-à-dire que le rôle, il est absolument absent. Il est intrinsèquement absent, il n'est pas là. Non seulement il n'est pas là, mais il ne peut pas être là. C'est un creux, c'est un vide, c'est un trou. C'est un trou d'identité, le rôle. Il n'y a aucune identité rôle. Il y a des traits, des fonctions, en particulier des mots qui sont dits dedans. Par exemple, on peut, en gros, un peu déduire du texte de Shakespeare que Hamlet était petit et gros. Mais enfin, et qu'il avait 33 ans. Mais enfin, vous savez qu'on peut jouer Hamlet en étant grand et maigre, ça n'a jamais empêché personne de jouer Hamlet, et ni en ayant 20 ans ou en ayant 50. Hein. Donc, il y a des traits, des indications qu'on peut prendre au premier degré, ou qu'on peut prendre au second degré, ou au troisième degré, comme beaucoup d'autres choses. Comme par exemple, l'âge des rôles a été pendant longtemps une indication absolument, de convention. Le sexe des rôles a été longtemps, et le redevient d'ailleurs aujourd'hui, une indication de convention. On peut jouer la femme en étant un homme, l'homme en étant une femme, etc. Bon. Et toutes sortes d'autres choses. La nationalité du rôle est une indication de convention. La langue dans laquelle le rôle est supposé s'exprimer est une indication de convention, etc. etc. Bon. Donc il n'y a que des traits, qui sont comme ça des indications, et des discours supposés prêtés dans des situations données à quelqu'un. Et ça, c'est un creux, c'est un trou, c'est une espèce de tourbillon, de vide, sur lequel viennent se greffer des mises à l'épreuve par le jeu d'individus qui sont des individus concrets, effectifs, quoi. Et donc l'opération de dédoublement, telle qu'elle se met à l'œuvre dans le jeu, est une opération extrêmement complexe. Parce que quand on joue, on n'est jamais rien d'autre que soi-même. Moi, ça fait quelques mois que je me suis remis à jouer. Enfin bon, je joue Créon dans Édipe Roi de Sophocle. Bon. Quand je joue, je m'excuse, je veux dire, je suis pas plus Créon que vous et moi. Hein. Je veux dire, je joue, quoi. C'est moi. Je rentre, je dis des mots, j'essaie de les dire de façon juste. C'est tout, voilà. Ces mots, par moments, produisent des effets émotifs, des effets de rencontre, des effets de regard avec les personnages, avec les comédiens avec qui je joue, etc. Mais je ne suis jamais rien d'autre que moi-même. Mais je suis moi-même en tant que creusé, au-dedans de moi, par une absence, par un trou, qu'on peut appeler Créon, si vous voulez, qu'on peut appeler le poème, qu'on peut appeler Sophocle, et qui produit de gros effets. Qui produit de gros effets sur à la fois ce que j'éprouve, ce que je vis, évidemment sur ce que je dis, et semble-t-il sur ce que je donne à voir ou que je voilà. Bon, et je crois que c'est vrai de tout comédien. Quand on est en scène, quand un comédien est en scène, il n'y a jamais personne d'autre que lui-même qui est en scène. Et pourtant, cette présence de premier degré est absolument habitée, absolument creusée par un vide, par un trou, qui est produit par des effets poétiques, c'est-à-dire des effets de langage, et qui agite quelque chose dans l'événement de cette présence. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec certaines choses qui étaient indiquées dans les documents préparatoires, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est bien d'un processus de mise en cause radicale de l'identité qu'il s'agit là. Mais radical, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, toute l'opération de Deleuze, qui n'hésitait pas à l'époque à parler de destruction de l'identité ou de dissolution de l'identité ou d'absence de l'identité. Deleuze, je ne sais pas s'il avait beaucoup lu les bouddhistes, était aussi radicalement anti-identitaire que Bouddha et quelques autres de ses disciple. C'est-à-dire, il s'agit d'une mise en cause radicale de la position identitaire, puisque ce que je suis, ce que je mets à l'épreuve, ce que je fais, ce que j'éprouve, ce qu'on voit, est quelque chose qui procède d'une toute autre configuration que la configuration de mon identité supposée. Donc en effet, il y a là enfin, comme tu l'as très bien décrit, c'est-à-dire il y a là une opération où la clé qui rend possible le truc, comme je l'ai vu dans les textes de Deleuze que j'ai relu aussi pour venir ici, la clé est absente, quoi. Enfin, ce que tu disais quand tu disais que le sélectionneur, l'instance qui produit la sélection est complètement absent, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est dans le cas du rôle, c'est très net, quoi. Voilà, c'est les deux premières réactions que je voulais dire en t'ayant écouté. Mais je sais pas, on peut en parler, avec vous.
Pas de son. J'ai l'impression quand même qu'il ressort, moi je suis tout à fait d'accord évidemment, pour avoir pas mal fréquenté les textes de Deleuze, sur la destruction, quelque chose comme ça, la mise à mal de la subjectivité. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ressort en fait de Platon, c'est comme s'il y avait deux types quand même des preuves, deux types de dramatisation et deux types de mimésis. Une mimésis qui serait dans le platonisme, je n'ose pas dire platonicienne parce qu'on sait pas, on n'est pas sûr de ce qu'a voulu dire Platon, qui serait sélection du même. Et là, je me demande si dans les preuves du dédoublement, justement, il ne faut pas passer par ce dédoublement pour arriver à être sélectionné quand même. Est-ce qu'à la fin, il n'y a pas un sujet qui est produit, est-ce que Lucidor, à la fin, sachant qu'il est aimé comme lui-même, il ne devient pas ce sujet? Est-ce qu'il ne sait pas cette opération-là? Et puis, un autre type de mimésis, de dramatisation, qui serait une simulation, qui serait ce que Deleuze appelle le simulacre, qui, là, ne vise pas à sélectionner le même, mais qui vise à sélectionner la différence. Une autre... Enfin, à partir de la même figure, les cercles ne produisent pas la même chose. Il y a un cercle qui produit du sujet, qui produit du même. Et donc ça, ce serait en gros le platonisme, même si c'est toujours un peu caricatural de parler comme ça, c'est rapide, quoi. Et puis le renversement du platonisme qui serait une sélection non pas du même, mais de la différence, qui produirait du double, enfin qui ne ferait que reproduire, qui ne ferait que se redédoubler. Et je pense que en fait ce avec quoi ça se joue chez Deleuze, c'est l'éternel retour, en fait, qui est rejouer toutes les identités pour sélectionner de la différence et pas sélectionner le même. C'est pas éternel retour du même, c'est pas éternel retour du tout, mais dans l'éternel retour, sélection de la différence. Alors là, je suis un petit peu flou, enfin abstrait et philosophique, ben, pureté philosophique, mais ça peut se jouer sur deux façons différentes de faire de la mimésis, en fait. Je pense on peut dire d'un côté, il y a simulation, simulacre, non-conformité au modèle, et de l'autre côté, conformité au modèle, sélection du même. Alors, ça fait deux figures quand même assez différentes qui recoupent un peu ce qu'on dit depuis le précédent séminaire et ce qui s'est dit hier, tout ça. Et qui peut-être, enfin, je finis là-dessus par rapport à tout ce que tu viens de dire, qui est extrêmement précieux, qui peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas une vision assez claire de la scène peut-être, mais qui peut-être peut donner lieu à deux façons de... D'accord. ça renonce.
Non, mais juste pour dire...
De façon de jouer, en fait, j'ai envie de dire. J'en sais rien, peut-être.
Certainement, oui. Mais à ceci près, ça c'est le matérialiste invétéré qui parle, c'est-à-dire à ceci près qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est une fable. C'est-à-dire que moi, je crois que la deuxième dont tu parles, c'est-à-dire le fait de produire des différences, ça, c'est la réalité de l'effectivité de ce qui a lieu, en particulier ce qui a lieu sur scène. Le fait de sélectionner l'identité dans son rapport d'identité à soi, Ça, c'est un effet que moi je dirais tout simplement idéologique, c'est-à-dire c'est un effet de fiction, c'est une fable. Alors que les idéologies, celles-là entre autres, comme toutes les autres, produisent des effets réels, c'est-à-dire que par exemple que cette idéologie du théâtre produise des effets sur la scène, c'est-à-dire qu'en effet, sur scène, on puisse. Ça produit toutes sortes d'effets, comme si on était là pour imiter une réalité du rôle, par exemple. Bien sûr, ça c'est vrai, et on ne joue pas de la même façon, tu as absolument raison.
Ouais, juste une remarque avant de passer la question donc à vous tous, juste pour essayer de faire les transitions quoi, avec les thèmes qu'on a évoqués, la conférence du CIPH, etc. En effet, quoi, je pense que Ismaël l'a bien dit à la fin, on recoupe un peu les catégories qui sont les nôtres, que j'avais essayé d'avancer, à savoir la différence entre notion double et celle de dédoublement, notion double liée à l'identité et notion de dédoublement liée à notion de différence. Et pourquoi ? Parce que là, de ce point de vue, donc là, juste quelques mots rapides qui sont aussi une forme de question, de remarque par rapport à ce que dit, Ismaël sur, par rapport à Deleuze et à Platon. Donc c'est vrai qu'en effet, la notion de double a trait à l'identification. Ce que montre que la notion de double a trait à l'identification et plus exactement, au fond, à l'impossibilité et à la nécessité de cette identification. Donc c'est bon, d'une part, comme Ismaël a bien dit, que dans le cas donc d'Homère, Ulysse, Iliade, et dans le cas de Marivaux, donc à la fois le sélectionneur et aussi le sélectionné. Donc c'est de ce point de vue, il y a un rapport au même, c'est-à-dire c'est le même qui organise la sélection pour se sélectionner lui-même. Et chez Platon aussi, évidemment, la notion de double et de sélection, elle est liée à l'identité. Pourquoi ? Bon, à différents niveaux. Hein. Pourquoi celui qui propose, pourquoi est-ce qu'il est absent à la fois présent et absent ? Pourquoi est-ce qu'il est à la fois présent et absent ? Parce que aussi chez Platon, la notion d'identité, hein, la pure identité, c'est l'identité de l'idée. L'idée en tant qu'elle se définit comme un rapport de soi à soi, hein, auto katoto, donc en grec. Donc cette notion d'identité et d'identification chez Platon, c'est évidemment ce qui fonde la sélection. Et donc, il ne peut pas y avoir dans le sensible de personnes qui incarnent parfaitement l'idée en tant que l'idée n'est pas dans le sensible. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'incarnation pure d'une personne qui dirait ce que c'est, vu que par nature, ce que c'est, ce n'est pas là, vu que c'est dans l'idée. Donc il y a aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a cette absence dans le sensible d'une personne qui incarnerait la pure identification, parce que cette identification ne peut être qu'une identification en l'idée. Et de ce point de vue aussi, on comprend aussi le rapport de Deleuze au théâtre. Pourquoi ? Parce que chez Deleuze, donc la notion d'identification chez Platon, elle passe par la sélection des prétendants. Et donc, c'est chez Deleuze, c'est donc la figure de la différence comme différence exclusive. C'est-à-dire, c'est la différence qui sert à exclure. Et elle sert à exclure pourquoi ? Parce qu'au fond, elle sert à exclure la différence elle-même comme différence. Si la différence est exclusive, c'est parce qu'au fond, on essaye de. L'idée de Platon, c'est d'exclure tout ce qui est différent, parce qu'au fond, la différence est soi-même et en elle-même ce qu'il faut exclure pour arriver à l'identité. Donc c'est ce que Deleuze appelle la différence exclusive, et ce que Deleuze veut penser, c'est la différence inclusive. C'est la différence entre deux notions de différenciation, la différenciation avec un T, avec un S, chez Deleuze. Bon, excusez-moi d'être un peu technique, mais juste après, là, c'est juste pour revenir sur la notion de théâtre. Donc, différenciation avec un T, c'est la différence interne, c'est la notion de différentiel, et différenciation avec un S, c'est la différence externe. Et donc, avec un C, oui, avec un T et un C, donc différence avec un C, oui, avec un C, bien sûr, c'est la différence externe, la différence avec un T, c'est la différence interne. Et donc, la sélection, la dramatisation, c'est la sélection de la différence externe pour arriver à l'identité. Et donc, on peut se demander aussi si ce n'est pas pour ça que Deleuze, finalement, après, abandonne finalement la définition du rapport au théâtre. Pourquoi ? Parce que, et comment est-ce qu'on peut, après, arriver à revenir au théâtre ? Parce que finalement, chez Deleuze, la notion de dramatisation est donc liée à la différence externe, en tant que sélection des différences externes. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme problème ? C'est que si ensuite il change de paradigme du théâtre à l'usine, hein, très clairement, Pourquoi ? C'est parce qu'au fond, pour lui, l'usine, c'est le mode de la différence interne, alors que le théâtre, ce point de vue, c'est le mode de la différence externe. Mais comment est-ce que, malgré tout, on peut revenir au théâtre ? C'est qu'au fond, on peut se dire que par là, ce que Deleuze critique, c'est la différence externe comme liée au modèle de l'identification. Donc, par là, on peut... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, le théâtre, il peut exister de façon deleuzienne, on peut dire, si justement, il rompt avec l'identification. Et donc, c'est exactement, du point de vue, la logique de ce que vous proposez, de ce qu'a dit aussi Guénoun, c'est-à-dire rompre avec la notion d'identification. Et donc, de ce point de vue-là, on peut sortir de la différence externe, revenir à la différence interne, et donc, finalement, exclure l'exclusion par Deleuze du théâtre, si on rompt avec la notion d'identification. Et donc, dire que, par exemple, l'acteur, il n'y a pas d'identification à l'acteur. Par exemple, pour être très concret, hein, c'est-à-dire que y a pas le faire un rôle, ce n'est pas demander à quelqu'un de s'identifier. Sauf cette identification ne peut être de toute façon qu'une identification à un masque, quoi, c'est-à-dire à une fausse identification. Donc c'est pour ça que du point de vue ensuite du théâtre lui-même, on peut dire non, le théâtre n'est pas identification parce que c'est des différences concrètes ensuite entre les acteurs, entre les rôles. Voilà, donc là, il y a cette multiplicité des différences qui on peut dire qu'elles sont aussi présentes dans le théâtre, mais si on rompt avec la notion de théâtre comme identification.
Ah oui, oui. Pas te répondre en deux minutes. Je sais pas si Denis tu voudras dire quelque chose après, mais oui, et en même temps je pense que Deleuze ne pensait pas que le théâtre c'était l'identification quand même, parce que ça fait c'est un petit peu énorme. Oui, voilà, du point de vue, il a utilisé le vocabulaire du théâtre jusqu'à en gros 69. Puis entre deux, il y a eu 68, puis il y a eu la rencontre avec Guattari, et après il a désiré changer de vocabulaire. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, de façon très, très ramassée, qui est une grosse question. Mais en même temps, ça me paraît, ça ne peut pas être la seule raison. Parce que s'il s'agit de dire simplement qu'il rejette le théâtre, oui, il rejette le théâtre de la représentation. Voilà. Différence et répétition, c'est un livre de critique de la représentation. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'après, il doit se dire que en utilisant le vocabulaire du théâtre, ça ne va pas encore assez loin. Donc après, effectivement, il crée tout un nouveau vocabulaire. Mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il abandonne le lexique. Et après, on peut quand même encore penser ce que ça signifie... pour le théâtre, pour la conception dramatique de... Il abandonne la conception dramatique de la pensée, en fait. Après, il y a une conception machinique de l'inconscient. Mais bon, le but, c'est pas de faire non plus... d'en finir avec Deleuze, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça explique peut-être la prise de distance.
Ouais, après, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il parle après de Bob Wilson ou Carmelo Bene, justement parce que pour lui, il rompt avec cette idée de... Ça ne prêche pas ensuite qu'après, ben, il fasse même un livre avec un écrivain de théâtre.
Après,
et un auteur,
à mon avis,
donc,
il y a d'autres raisons, mais après, ça, on sort de la question du double. Et tout ça.
Quoique le livre avec Carmelo Bene s'appelle Superposition.
Ouais, donc il y a un dédoublement.
Justement, dédoublement. Qu'est-ce qu'il y a, bon, donc, si vous souhaitez, monsieur Denis Gounoun, vous répondre, si vous avez des questions, donc il y a largement le temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Par rapport à tout ce qui a été dit, sur des questions sur l'acteur, le théâtre.
Oui. Je ne sais pas du tout si ma question va être claire, mais je vais la poser quand même. Ça m'est venu en t'écoutant, Ismaël. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que le théâtre est un rite d'initiation philosophique ? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Parce que moi, je ne sais pas, c'est ce qui m'est venu dans un peu la façon dont tu parlais de théâtre et philosophie.
Ah, il y a des mots forts quand même. Rite d'initiation philosophique. Ah, en tout cas, c'est une belle formule. Je ne sais pas, moi je...
Ça t'évoque rien.
Non, en fait, ce qui se passe, pour être sérieux, c'est que il y aurait à l'œuvre dans la pensée un schéma qui se retrouve dans le philosophé à l'infinitif, dans la pensée, et le même schéma à l'œuvre dans la dramatisation. Ça ne veut pas dire que le théâtre va nous initier à la philosophie. C'est de la pensée,
c'est de la pensée qui a d'autres véhicules. Mais peut-être que la philosophie est un rite initiatique pour le théâtre, alors du coup. Non, je sais pas. Enfin, mais en tout cas, c'est une belle formule, ouais, pourquoi pas.
Alors, moi, je voudrais vous dire que, mais c'est une question de parti pris personnel. Hein. Bon, d'abord, le théâtre. Je pense que dans le théâtre, il y a des tendances contraires, hein, comme dans toute chose. Donc, il y a des tendances qui vont dans ce sens-là et des tendances qui vont dans le sens inverse. Moi, je voudrais dire que, en tout cas, le mouvement du théâtre, c'est-à-dire la vie du théâtre, c'est-à-dire le devenir du théâtre, c'est-à-dire ce que le théâtre produit peut-être de plus inventif, de plus créatif, si vous voulez, de plus neuf, etc., à chacune de ces époques, c'est, à mon avis, une opération de déritualisation, et non pas un rite. C'est-à-dire que c'est une opération de mise en cause du rite, de quelque rite que ce soit, de tout rite. Alors, évidemment, le théâtre se ritualise lui-même, ça, j'en sais quelque chose, on en a... Je me suis beaucoup agité contre ça, c'est-à-dire contre le fait qu'il y a des rites, y compris des rites sociaux, de théâtre, qui sont des rites extraordinairement contraignants, extrêmement forts, mais qui contiennent une espèce d'opération, si on veut prendre le mot théâtre, si vous voulez, dans sa bonne part, hein, dans sa bonne part, en l'imaginant qu'il y a dans le théâtre quelque chose de... des processus ou des devenirs qui sont des devenirs qui produisent du nouveau, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Si on veut prendre le mot théâtre dans cette part-là, c'est un peu trop positif, c'est un peu trop irénique, parce qu'il y a une mauvaise part du théâtre, il y a une part d'ombre et une part néfaste du théâtre. Le théâtre peut être une mauvaise chose. Donc, si on veut le prendre en ce sens positif, eh bien alors le théâtre travaille à la déposition des rites, à l'interruption du rituel, depuis son premier surgissement jusqu'à aujourd'hui. Et dès qu'il se reconstitue en rite, il travaille à cette déposition. Alors, sur l'initiation, c'est plus compliqué, parce que si l'initiation, c'est une opération violente, opération d'assujettissement et d'asservissement, au fond, qui vise à mettre un individu dans la dépendance du rite, alors on peut espérer que le théâtre est une opération, dans ce qu'il a de bon, qui est anti-initiatique, hein, qui n'est pas une initiation, mais une anti-initiation. Je voudrais dire de la même façon que peut-être qu'il y a lieu dans notre conversation, je ne sais pas si ça a un intérêt pour ceux qui se discutent ici, mais enfin je voudrais le dire quand même, de dire que on ne peut pas faire équivaloir la question de l'identité et la question de l'identification. C'est même en un certain sens l'inverse. C'est-à-dire que il me semble que Deleuze, pour dire encore un moment sur lui, dans ces périodes-là, est quelqu'un qui parle d'un point de vue de la dissolution des identités et de la perte des identités. Il le dit clairement dès les premières lignes de Différence et Répétition. Puis là, il dit que c'est tout le mouvement de la pensée moderne qui met en jeu la perte des identités. Hein. Et en un certain sens, l'identification, c'est une réponse à la perte d'identité. Il y a d'autant plus d'identification que l'identité est problématique. Et l'identification, même au sens psychanalytique, c'est une opération de production d'une espèce de fantasme, de mirage, sur une identité absente. Hein. On s'identifie d'autant plus que l'identité n'est pas là. Alors, dans chaque identification, c'est un mot qui a toute une histoire par rapport au théâtre, qui est compliqué, qu'il faudrait rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ce que moi je voudrais dire ici, c'est, parce que ça me paraît avoir une importance quand on parle de ces textes-là, pour leur rendre justice, c'est qu'il y a une tentative de penser à partir de quelque chose qui ne serait pas le point de vue de l'identité. La différence et répétition, tout le livre à l'esprit, mais enfin, aussi bien du côté de la différence que du côté de la répétition, tout cet énorme livre, toute cette énorme tentative, gigantesque tentative de philosophie, est une tentative de penser à partir d'autre chose que la supposée position d'identité, et en un certain sens, de rendre compte des processus qui construisent les identités. Alors, il y a à ça des enjeux évidents, comme vous savez, il y a des enjeux philosophiques, il y a des enjeux psychiques, mais il n'y a pas besoin de faire un dessin pour savoir qu'aujourd'hui, il y a des enjeux la politique énorme, hein, et que le concept d'identité, avec toutes ses ramifications, est un opérateur politique considérable. C'est un opérateur dans les conflits et les les affrontements d'aujourd'hui qui a une fonction absolument extraordinaire. Enfin, il y a peu de termes philosophiques, c'est vraiment un terme philosophique. Il y a peu de termes philosophiques qui ont une telle place dans le débat politique le plus intense. Et je crois qu'il y a en philosophie, par exemple, il y a eu une tendance à un moment donné à dire, y compris dans des cercles extrêmement qui se voulaient extrêmement peu conformistes ou novateurs, dire qu'on peut pas penser sans identité, on peut pas penser hors identité que hors d'identité point de salut. C'est vrai en un certain sens qu'on peut pas penser dans un espace dont les identités soient absentes. C'est vrai qu'il y a pas de domaine de la pensée, on pourrait dire voilà, il y a plus d'identité, c'est tranquille quoi. Non, c'est pas comme ça. Les identités sont des processus en formation permanente. Mais en tout cas, si quelque chose se fait là, dans ces opérations auxquelles tu te réfères, qui ait une portée, c'est une tentative de cet ordre. Alors, sans vouloir sauver Platon, ni l'opposer de façon trop simpliste au platonisme, Ça, je pense que ce que tu disais, la citation que tu faisais de Monique Dixot est très, très juste là, à cet égard. Moi, ce que j'ai éprouvé, si vous voulez, en travaillant ce texte, parce que c'est quand même une opération sur un texte qui est très, très... D'abord, bon, le traduire, et puis ensuite, après, le faire jouer par des acteurs. Ce qui m'a semblé sentir, c'est que non seulement, comme vous le disiez à l'instant, non seulement... Le sélectionneur, pour reprendre tes termes, était absent parce que c'est une idée et que, à ce titre, elle ne peut pas être assumée par une individualité sensible concrète. Ça, d'accord, c'est vrai, c'est sûr. Mais que même l'identité de l'idée elle-même n'est pas si facile à trouver. Et je vous donne un exemple très simple. Hein, dans le cadre de la définition d'Eros, puisque c'est ça, hein, puisque là j'ai travaillé très en détail sur ce texte, je prends cet exemple-là, mais pour en prendre d'autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Eros? C'est quoi? C'est qui? Comment ça marche? C'est ça le truc, ils se décident, ils se réunissent et ils disent, bon, allez, on va chacun proposer quelque chose sur c'est qui Eros, si c'est quelqu'un, et qu'est-ce que c'est si c'est quelque chose? Eh bien, au bout du chemin, même si c'est un dialogue aporétique, c'est pas un dialogue aporétique, mais c'est pas un dialogue sans fin. Au bout du chemin, il n'y a pas de l'idée n'est pas assignée à un statut de façon absolument déterminée, quoi. En tout cas, moi, je pense que dans ce texte-là, c'est comme ça que ça marche. Je dirais pas ça en général, tous les dialogues de Platon, j'en sais rien, mais c'est pas à la fin, il n'y a pas une idée de l'éros ou un éros de l'idée qui serait, où on pourrait dire, c'est déterminé comme tel. Et à ce titre, l'idée, c'est l'idée. Même ça, en un certain sens, ça fait défaut. Ça, c'est ce que... voilà. Enfin, bon, on pourrait parler de ça longtemps. Donc...
Juste, c'est que... d'une certaine façon, l'idée, elle est dans cette absence... Elle est vraiment dans la position du père absent, du grand absent, d'Ulysse qui revient mais qui finalement est considéré comme mort. Il y a ce recul comme ça, ontologique, d'absence. Même chez Platon. Hein.
On peut le dire de façon déridienne. C'est pas parce que on vous dit l'idée c'est l'idée que c'est pour autant que l'idée c'est l'idée. Vous savez, c'est-à-dire... Non, mais c'est vrai. Hegel, il disait, quand on dit A égale A, dans le simple fait de dire A égale A, y a une équation, une différence qui est la différence au cœur même de cette identité logique élémentaire. Il n'y a pas un A, il y en a deux. Et en plus, il y a un signe entre les deux. Donc, A égale A, c'est en même temps, on peut dire, ça pose que A égale A. Mais en même temps, dire que A égale A, bon, ça, c'est très hegelien, c'est déjà introduire dans A le mouvement, par cette simple énonciation, le mouvement d'un écartement intérieur. Bon, eh bien, de façon semblable, on pourrait dire, c'est ce que Balibar appelle la violence des énoncés tautologiques. Vous savez, j'adore ce truc quand Balibar dit la violence des énoncés tautologiques, c'est l'heure, ou bien une femme est une femme, ou bien, je sais pas quoi, La politique, c'est la politique. Bon, voilà. Bon. Alors, quand on dit c'est celui qui est absolument identique à lui-même, bien sûr qu'il y a un effet dans le texte qui voudrait nous faire croire qu'il y a quelque chose d'identique à lui-même. Mais dans le texte, l'opération du texte, c'est pas l'opération de quelque chose d'identique à lui-même, c'est l'opération de dénonciation de ça et de la production de ça qui s'est produite justement comme différence. C'est pour ça que moi j'emploie le terme d'idéologie, pour dire que l'identité, c'est une idéologie.
Bon, je ne vais pas essayer de répondre là parce que c'est pas. Après, on pourra échanger sur ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste une autre question, puis après on fait la pause.
Moi, j'aurais envie de revenir sur la question de Marivaux et de l'épreuve, au sens où je ne ferais pas la même séparation, opposition entre. D'un côté, Marivaux et je retrouve mes notes. Entre Marivaux et l'Odyssée et de l'autre côté, Platon. Au sens où j'ai l'impression, des souvenirs que j'ai de l'épreuve, que lui pose le jeu de l'échange avec Frontin, mais qu'en même temps, de ce que je me souviens, elle aussi va échanger avec sa servante. Non ? Non, alors je mélange.
Et après, là, dans d'autres pièces, il peut y avoir d'autres. Ouais.
Et
c'est dans l'échange, peut-être, justement.
Ouais, voilà. Okay. Ouais, donc, voilà. Mais tout ça aussi, donc j'irai beaucoup moins loin que ce que j'avais pu imaginer pouvoir aller. Mais avec cette question de. C'est lui qui fait le jeu, mais ce n'est pas lui qui se sélectionne. Pour moi, est-ce qu'on ne pourrait pas la placer, elle, en sélectionne. C'est elle qui sélectionne si c'est le.
C'est un peu ce que. Enfin, excusez-moi, finissez votre phrase, non ? C'est un peu ce que j'ai voulu dire quand je disais qu'il se met à l'épreuve lui aussi, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il y a quand même un risque qu'elle lui dise ah ben, il est très bien, ce Frontin, finalement, il est pareil, même taille, et je pars avec lui. Sauf que on est dans un système où c'est un risque mesuré. Il lui dit dès le départ, Lucidor, il lui dit si tu as le bonheur de plaire, j'y remédierai en te faisant connaître. C'est-à-dire que c'est un risque. Évidemment, elle ne va pas se marier avec un valet. Mais il y a quand même le risque qu'il la prenne, qu'en fait, elle ne l'aime pas pour lui-même.
Oui.
Il y a quand même le passage par une mise en danger. Mais il a besoin de ça parce que il est quand même fêlé, Lucidor. Je veux dire par là que s'il a besoin d'un dédoublement, c'est qu'il n'est pas sûr, en fait, justement de son identité. Il n'est pas sûr de lui. Enfin, je divague, je ne réponds plus à votre question. Mais
en fait, moi, ma question, c'était de dire que si chez Platon, avec les prétendants, c'est le père qui choisit donc la tierce personne, est-ce que là, on ne place pas elle en tierce personne et non plus lui comme dans l'Odyssée où Ulysse se double lui-même pour savoir, mais et donc dans ce cas-là, on, au lieu de mettre Marivaux et l'Odyssée du même côté et Homère, et Homère du même côté, on met Platon et Marivaux ensemble et donc on place après pour aller plus loin, on place elle comme étant l'idée sélectionne.
C'est la fiancée qui sélectionne. Oui, on peut le voir comme ça, c'est pas mal.
Voilà, c'est une question.
Ouais. Ouais. Voilà.
Proposition.
Non, non, c'est pas faux.
Il est 7h30, je crois. Enfin, donc. donc, en fait, je vérifie par rapport au programme. Donc, est-ce que vous avez le programme? C'était bien 7h30, il me semble. Ok. Donc, en fait, là, on va prendre une heure de pause.